Vous écoutez RTL.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Et pour le journal avec Julien Cellier, bonsoir Julien.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Le grand frère de Salah Abdeslam lui demande de sortir du silence. C'est un document exclusif sur RTL ce soir.
Mohamed Abdeslam était notre invité il y a quelques minutes. Il ne comprend pas le mutisme de son cadet. À la une également, l'avancée des forces spéciales irakiennes, la bataille de Mossoul a commencé, mais aussi le déplacement discret de François Hollande à Florange. Et enfin, la prise d'antenne polémique de Jean-Marc Morandini sur iTélé, la rédaction elle est en grève.
À la fin du journal, l'actualité qui sort de la bouche des enfants. Nouvelle ère pour l'OM. Franck McCourt récupère les clés du club aujourd'hui. Qu'en dit-on dans les cours de récré? 19h15, on refera le monde.
RTL Soir.
Et c'est donc un document exclusif. Le grand frère de Salah Abdeslam s'est confié à RTL ce soir.
La semaine passée, le suspect clé du 13 novembre était toujours mutique, lâché par ses avocats. Et bien, 5 jours plus tard, son frère aîné Mohamed s'exprime sur RTL. Il s'est entretenu avec vous, Marc-Olivier, à Bruxelles, et il condamne avec force le silence de son cadet.
Ce soir, je demande à mon frère de s'exprimer. J'ai notamment demandé à mon frère, quelques jours après les événements de Paris, de justement se rendre auprès de la justice. Au jour d'aujourd'hui, je lui demande très clairement de s'exprimer.
Comment vous expliquez son comportement ?
Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi, lors de mes visites ici en Belgique, j'ai vraiment eu un Salah Abdeslam qui était prêt à s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment l'attitude qui émanait de lui dans les premières minutes que je l'avais vu. Là, c'est vrai que quelques mois après, c'est une autre personne que j'ai en face de moi. J'ai effectivement pu constater que Salah était plus en retrait, qu'il était plus renfermé sur lui-même. C'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Par rapport aux familles, il est indéniable que c'est quelque chose qui doit être insupportable. Nous sommes, moi et mes parents, dans la même situation. On a besoin d'éléments de réponse aussi. Donc quelque part, on se joint à eux en demandant à Salah de s'exprimer, quoi. Mes parents et moi-même, on n'a jamais souhaité ça. On condamne toute forme de violence, on est contre ce type d'agissement, contre ce type d'idéologie. Donc voilà, savoir en plus que ce sont mes frères qui ont commis ça, c'est doublement difficile.
Mohamed Abdeslam, invité de RTL Soir. Et pendant ce temps-là, en Irak, 5 à 8 000 djihadistes sont retranchés à Mossoul.
La bataille de Mossoul a commencé la nuit dernière. Une réunion de la coalition est prévue le 25 octobre à Paris. Coalition dont les avions appuient les forces spéciales locales et les Peshmerga, des troupes que Xavier de Giacomoni a suivies. Envoyé spécial de 24 heures en question sur LCI, c'est l'un des rares journalistes à avoir pu pénétrer dans les zones contrôlées par Daesh autour de la ville aujourd'hui.
Nous sommes là sur la ligne de front à une vingtaine de kilomètres de Mossoul. Il y a des tranchées, il y a des fortins disséminés un petit peu partout sur cette plaine de Ninive. Il y a des combats sporadiques. Les Peshmerga ont mené des combats. Ils ont en quelque sorte préparé le terrain. Mais on sent bien ici qu'ils n'ont pas tellement envie d'aller plus loin vers Mossoul, qui est une ville essentiellement irakienne sunnite. Eux sont kurdes. Ils préfèrent rester sur leur position, dans leur fortification. Au loin, à 2 kilomètres de l'endroit où nous étions avec la division d'or, les forces spéciales s'apprêtaient à bivouaquer, pas à combattre, à part s'ils étaient attaqués cette nuit par des éléments de l'État islamique. On pouvait voir des bombardements, il y a des tirs de mortier, et puis il y a aussi, on entend aussi des bombardements aériens menés par les forces de la coalition, dont les rafales françaises.
Xavier de Giacomoni, l'envoyé spécial de nos confrères de LCI aux abords de Mossoul. Le déplacement était risqué. Pour l'instant, François Hollande évite les sifflets à Florange.
Une visite discrète en Moselle, sur le lieu de toutes les promesses en 2012, sur ce site où les hauts fourneaux ont été fermés en 2013, mais où 650 salariés ont été reclassés et où Arcelor s'est engagé à investir. Visite d'autant plus explosive qu'elle intervient quelques jours après la parution polémique d'un livre confidence. La CGT et FO avaient décidé de boycotter la venue du président. Président qui a pris la parole il y a quelques minutes.
Je voulais venir pour montrer que quand des engagements sont pris, ils peuvent être tenus. Florange, c'est le symbole d'un renouveau. Il faut que les Français regardent Florange avec ce regard-là. Avec cette fierté-là, c'est le signe que le combat a été gagné.
À François Hollande, qui n'avait pas que des soutiens dans la délégation invitée à Florange aujourd'hui, puisque Florian Philippot en faisait partie, pour le numéro 2 du FN, non, le combat n'a pas été gagné.
J'ai le sentiment que le président de la République, chaque année, revient sur les lieux du crime. Je regarde concrètement les choses. Il y a 5 ans, il y avait 3300 emplois en CDI sur le site. Aujourd'hui, il y en a 2300. Donc ça fait moins 1000 emplois en CDI en 5 ans. Eh bien, écoutez, ça fait 1000 jeunes qui n'ont pas été embauchés, 1000 jeunes qui n'ont pas pu sortir de la galère, et c'est autant de difficultés pour les sous-traitants, pour les commerces, pour l'activité économique et sociale en général. Il aurait fallu nationaliser, temporairement le site de Florange, qui était un site rentable. Et c'est ce que nous préconisions à l'époque. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi.
Florian Philippot au micro RTL de Julien Fautra. Écœurant, le futur centre d'accueil des SDF a été incendié dans le 16e arrondissement de Paris.
Incendie qui ne devrait pas remettre en cause l'ouverture mi-novembre. Le parquet ouvre une enquête. La municipalité va se constituer partie civile. Cet espace avait suscité une vive contestation de riverains et du maire Les Républicains du 16e, Claude Goisguen.
Incendie qui, hasard du calendrier, intervient lors de la journée du refus de la misère, Julien.
Une journée organisée chaque année par ATD Carmonde. ATD Carmonde qui s'est posé une question. Comment nommer la discrimination en raison de la précarité? Depuis juin, elle est reconnue par la loi, mais aucun terme ne permet de la désigner. L'association veut donc faire entrer dans le dictionnaire le mot « pauvrophobie ». La pauvrophobie, c'est le quotidien de ce chômeur de longue durée qui s'est confié à Olivia Leray pour RTL.
Moi, j'en souffre tous les jours. C'est le regard des gens. Tu es chômeur, t'es un salaud de pauvre. Tu coûtes de l'argent à la société. C'est nous qui payons pour toi. Rien que le fait de l'adresse, d'habiter une cité d'HLM. Je me suis déjà vu refuser un emploi pour ça, quoi. On est rejeté comme si on est des sans-cervelle. Comme quoi, un pauvre est censé ne rien avoir dans le crâne. Si un mot peut aider à la lutte du combat, moi je suis tout à fait d'accord.
Témoignage de Fabrice recueilli par Olivia Leray pour RTL. Après la pub, les salariés d'ITélé en grève manifestent devant la chaîne en ce moment même. À l'intérieur, Jean-Marc Morandini vient de rendre l'antenne.
RTL Soir, Marc-Olivier Faugiel.
Et pour la suite du journal à 19h08 avec Julien Cellier sur RTL. La rédaction de la chaîne ITélé est en grève, Julien, mais Jean-Marc Morandini, lui, était bien à l'écran en fin d'après-midi.
Il a pris l'antenne à 18h pour la première fois, comme si de rien n'était, malgré sa mise en examen pour corruption de mineurs aggravée, malgré un nouveau témoignage accablant d'un jeune plaignant dans le magazine Les Arocs aujourd'hui. Des débuts qui heurtent les journalistes, les techniciens du média. Ils ont cessé le travail ce matin et une centaine d'entre eux manifestent en ce moment à l'extérieur des studios Laurent Marsic.
Ouais, une centaine de personnes qui peu avant 18h sont sorties de l'immeuble qui abrite les studios d'ITélé, car malgré une motion de défiance contre la direction adoptée à une large majorité, malgré une grève reconductible votée ce matin, l'animateur a donc pu lancer ce soir effectivement à 18h son émission. Guillaume Auda de la SDJ, la société des journalistes de e-télévision.
Ça démontre en tout cas que la direction est déterminée et ça démontre aussi que nous on est déterminés dans la mesure où en fait on se désolidarise physiquement de l'immeuble qui nous abrite, l'immeuble d'ITélé, au moment où Jean-Marc Morandini est à l'intérieur des studios d'ITélé. Parce qu'on sait que ITélé de facto s'éteint dans une semaine pour donner naissance à CNews, qu'on est quand même une rédaction qui reste unie et qui à un moment donné croit à la mission qui est la nôtre, faire du journalisme, tout simplement de manière indépendante, de manière digne et de manière exemplaire.
Les yeux rivés sur leur téléphone portable, les journalistes ont donc regardé les débuts sur leur antenne de Jean-Marc Morandini pour qui la chaîne avait fait appel à des techniciens de Canal+, voire la direction technique, c'est ce qu'on explique ici pour assurer ce premier direct. Nous ne lâcherons rien, disent les journalistes grévistes, la direction non plus. Une nouvelle AG est prévue demain matin pour savoir si la grève sera reconduite.
Laurent Marsic pour RTL, donc devant le siège de e-télévision. Deux jours après l'effondrement d'un balcon à Angers, l'entreprise qui a construit l'immeuble, Julien, sort de son silence.
Ce drame a fait 4 morts, 14 blessés, des jeunes d'une vingtaine d'années. La société Bonnel rejette toute responsabilité et met en cause une usure anormale. Son avocat Pascal Rouillet.
Les premières pensées de la société Bonnel en découvrant les faits vont bien sûr vers ces familles que l'on connaît pour certaines. Il y a une grande interrogation sur non pas tant les conditions dans lesquelles cet immeuble a été conçu. On a ressorti les plans, les études, les comptes rendus de chantier. Ce qui est curieux, c'est que nous n'avons jamais eu aucune difficulté avec cet immeuble. Jamais on nous a dit qu'il y avait des problèmes, s'il y en avait. Donc se pose vraiment la question des conditions dans lesquelles l'immeuble a été entretenu. Est-ce qu'il y a eu une maintenance qui a été assuré de cet immeuble. Est-ce qu'on a vérifié de temps à autre quels étaient les niveaux de pénétration de l'eau dans les surfaces? A priori, tant la conception que la réalisation ne semblent pas en cause.
Propos recueillis par Christian Panvert pour RTL.
Un mort, 6 disparus, 6 blessés, c'est le bilan d'une explosion sur un site chimique de BASF dans l'ouest de l'Allemagne à la mi-journée. Explosion à l'origine toujours indéterminée.
C'est officiel, l'OM passe sous pavillon américain.
La vente a été actée cet après-midi. Le businessman Frank McCourt a signé les derniers papiers à Paris et dans le même temps, le nouveau président Jacques-Henri Hérault a rencontré les joueurs à Marseille. Un premier discours conquérant, trophée de la Ligue des Champions gagné en 1993 en main. La Ligue des Champions, l'OM ne la joue pas cette saison. En revanche, Lyon la dispute et demain, les Lyonnais accueilleront un club de légende, la Juventus Turin. L'OL, troisième de son groupe, devra réaliser l'exploit. Le capitaine Maxime Gonallon y croit.
Je ne sais pas si vous vous souvenez du match du PSG la saison dernière en championnat. On avait eu une hécatombe de blessés, personne ne nous voyait gagner, on nous promettait même une culottée. Donc peut-être que ce match, ça doit être un exemple. La Juve est aujourd'hui plus que favorite de ce match. Mais dans le football, il y a toujours un mais et c'est à ce mais qu'il faut s'accrocher. Et on sait qu'on est capable de faire de très bonnes choses.
Maxime Gonallon au micro RTL de Willy Maisonnas. À tout à l'heure, Julien, vous revenez à 20h.
À tout à l'heure.